Lizzie présente Tout n'est pas perdu de Wendy Walker. Lu par Benoît Grimiot. Pour Andrew, Ben et Christopher. Chapitre 1. Il la suivit à travers les bois derrière la maison. Le sol était jonché des débris de l'hiver, des feuilles mortes et des brindilles qui étaient tombées au cours des 6 derniers mois et s'étaient décomposées sous une couverture de neige. Elle l'a peut-être entendue approcher. Elle s'est peut-être retournée et l'a peut-être vue portant la cagoule en laine noire dont les fibres ont été retrouvées sous ses ongles. Lorsqu'elle est tombée à genoux, ce qui restait des fragiles brindilles s'est brisé comme de vieux os et a écorché sa peau nue. Son visage et sa poitrine étaient plaqués contre le sol, probablement par l'avant-bras de l'agresseur, et elle a dû sentir la brume des arroseurs automatiques qui aspergeaient la pelouse à peine 6 mètres plus loin, car ses cheveux étaient mouillés lorsqu'on l'a retrouvée. Quand elle était plus jeune, elle courait après les arroseurs dans son jardin, tentant de saisir les jets d'eau durant les chauds après-midi d'été, ou de les éviter durant les fraîches soirées de printemps. Son petit frère la pourchassait alors, nu comme un ver, avec son ventre arrondi et ses bras qui battaient l'air sans totalement parvenir à se synchroniser avec ses petites jambes. Parfois, leurs chiens se joignaient à eux, aboyant si furieusement qu'ils recouvraient leurs éclats de rire. Presque un demi-hectare d'herbe verte, glissante et humide, de grands cieux dégagés avec quelques nuages blancs cotonneux. Sa mère à l'intérieur qui les observait depuis la fenêtre, et son père qui rentrait d'endroits dont son costume portait encore l'odeur. Le café éventé du bureau de la concession, le cuir neuf, le caoutchouc des pneus. Ses souvenirs étaient désormais douloureux, mais elle s'est néanmoins immédiatement tournée vers eux quand on l'a questionnée sur les arroseurs, en lui demandant s'ils étaient allumés quand elle avait traversé en courant la pelouse vers les bois. Le viol a duré près d'une heure. Il semble impossible qu'ils aient pu le savoir. Quelque chose dans la coagulation du sang au point de pénétration et dans les divers stades d'ecchymose sur son dos, ses bras et son cou, en fonction de la manière dont il l'a maintenue. Durant cette heure, la fête s'est poursuivie. Elle devait la voir depuis l'endroit où elle était étendue. Les lumières éclatantes dans les fenêtres, leur vacillement quand les corps se déplaçaient dans les pièces. C'était une grosse fête, avec presque tous les élèves de seconde, plus une poignée de jeunes de troisième et de première. Le lycée de Fairview était plutôt petit, même pour une banlieue du Connecticut, et les séparations entre niveaux qui existaient ailleurs y étaient moins marquées. Les équipes sportives étaient mixtes, de même que les clubs de théâtre et de musique, et ainsi de suite. Certains cours ignoraient même les frontières entre classes, les meilleurs élèves en maths et en langue étrangère passant directement au niveau supérieur. Jenny Kramer n'avait jamais suivi de cours de niveau avancé, mais elle s'estimait intelligente et dotée d'un sens de l'humour féroce. C'était aussi une bonne athlète, natation, hockey sur gazon, tennis. Mais pour elle, aucune de ces choses n'avait eu d'importance avant que son corps arrive à maturité. Cette fête devait être l'un des moments les plus agréables de son existence. Je crois même qu'elle a dit que ça allait être la meilleure soirée de ma vie. Après des années de ce que j'en suis venu à considérer comme du cocooning adolescent, elle avait l'impression d'être elle-même. Les cruels appareils dentaires et les dernières rondeurs de bébé, la poitrine trop petite pour les soutiens-gorge mais qui pointait tout de même sous ses t-shirts, l'acné et les cheveux rebelles, tout ça avait enfin disparu. Elle avait été le garçon manqué, l'ami, la confidente de garçon qui s'intéressait toujours à d'autres filles, jamais à elle. Ce sont ses propres mots, pas les miens. Même si j'ai le sentiment qu'elle se décrivait très bien pour une fille de 15 ans. Elle avait une conscience d'elle-même inhabituelle. Malgré ce que ses parents et enseignants lui avaient inculqué, elle croyait, et elle n'était pas seule parmi ses pairs à le croire, que la beauté demeurait le bien le plus précieux pour une fille à Fairview. La posséder enfin avait été comme gagner à la loterie. Et puis, il y avait le garçon, Doug Hastings. Il l'avait invité à la fête un lundi, dans le couloir, entre le cours de chimie et celui d'histoire de l'Europe. Elle a été très spécifique à ce sujet, et également concernant ce qu'il portait. L'expression sur son visage et le fait qu'il semblait un peu nerveux, même s'il affectait la nonchalance. Elle n'avait pas pensé à grand-chose d'autre durant le reste de la semaine, si ce n'était aux vêtements qu'elle mettrait, à la façon dont elle se coifferait, et à la couleur de son vernis quand elle irait se faire faire une manucure avec sa mère le samedi matin. Ça m'étonne un peu. Je n'apprécie pas Doug Hastings, d'après ce que je sais de lui. En tant que parent, je me sens autorisé à avoir ce genre d'opinion. Je ne suis pas insensible à sa situation, un père tyran, une mère trop faible pour l'éduquer, mais je trouve quelque peu décevant que Jenny n'ait pas vu qui il était vraiment. La fête était tout ce qu'elle s'était imaginé. Des parents absents, des jeunes qui faisaient mine d'être des adultes, concoctant des mixtures dans des verres à cocktail, buvant de la bière dans des verres en cristal, Doug y était, mais il n'était pas seul. La musique hurlait, et elle a dû l'entendre depuis le lieu de l'agression. La playlist regorgeait d'énormes tubes pop, des morceaux qu'elle connaissait bien, avec des paroles qui vous restent en tête. Mais même malgré la musique et les rires étouffés qui s'échappaient par les fenêtres ouvertes, elle a dû entendre les autres sons plus proches, les soupirs dépravés de son agresseur, ses propres cris gutturaux. Quand il en a eu fini et s'est enfui dans l'obscurité, elle s'est soulevée sur son bras, écartant son visage des broussailles. Elle a alors peut-être senti l'air frappant sa joue nue, et à cet instant, elle a peut-être senti que sa peau était humide. Des fragments des broussailles dans lesquels elle avait été allongée étaient collés à son visage, comme s'il avait été trempé dans une glu qui avait commencé à sécher. Appuyée sur son avant-bras, elle a dû entendre le son. À un moment, elle en est venue à s'asseoir. Elle a essayé de nettoyer le désordre qui l'entourait. Du revers de la main, elle s'est essuyé la joue. Des vestiges de feuilles mortes sont tombés par terre. Elle a alors dû voir sa jupe retroussée autour de sa taille, exposant ses parties génitales dénudées. Il semblerait qu'elle se soit mise à quatre pattes et ait rampé sur une courte distance, peut-être pour récupérer ses sous-vêtements. Ils étaient dans sa main quand on l'a retrouvée. Le son a dû être de plus en plus fort, car il a finalement été entendu par une autre fille et son petit ami qui étaient venus chercher un peu d'intimité dans le jardin non loin. Le sol a dû crépiter et craquer sous le poids de ses mains et de ses genoux, quand elle s'est remise à ramper vers la pelouse. Je l'ai imaginé avançant à quatre pattes, son état d'ébriété altérant sa coordination et l'état de choc figeant le temps. Je l'ai imaginé évaluant les dégâts quand elle a finalement cessé de ramper et s'est assise, quand elle a vu ses sous-vêtements en lambeaux et a senti le sol contre la peau de ses fesses. Les sous-vêtements trop déchirés pour qu'elle les remette, rendus tout poisseux par le sang et la crasse. Ce son de plus en plus fort, se demandant depuis combien de temps elle était dans le bois. Elle avait recommencé à avancer à quatre pattes, mais elle avait beau s'éloigner, le son continuait de croître. Comme elle a dû vouloir désespérément s'échapper, atteindre l'herbe tendre, désormais couverte d'eau, l'endroit où elle s'était trouvée avant de pénétrer dans le bois. Elle a parcouru quelques mètres supplémentaires avant de s'arrêter de nouveau. Peut-être est-ce alors qu'elle s'est aperçue que le son, le gémissement troublant, était dans sa tête, puis dans sa bouche. L'épuisement s'est emparé d'elle, si bien que ses genoux puis ses bras se sont dérobés sous elle. Elle a dit qu'elle s'était toujours considérée comme forte, une athlète dotée d'une formidable volonté, forte dans son corps et dans sa tête. C'est ce que son père lui avait dit depuis qu'elle était toute petite. « Sois forte dans ton corps et dans ta tête et tu auras une belle vie !» Peut-être a-t-elle voulu se lever, peut-être a-t-elle ordonné à ses jambes de bouger, puis à ses bras. Mais sa volonté était impuissante. Au lieu de la ramener à l'endroit d'où elle venait, ses membres se sont enroulés autour de son corps meurtri qui gisait sur le sol infect. Tandis que ses larmes coulaient et que sa voix leur faisait écho avec cet horrible gémissement, elle a finalement été entendue et secourue. Elle s'est depuis demandé à maintes reprises pourquoi rien de ce qu'elle avait en elle, ses muscles, son esprit, sa volonté, n'avait été capable d'empêcher ce qui était arrivé. Elle ne se souvenait pas si elle avait essayé de lutter, si elle avait crié à l'aide ou si elle avait juste laissé faire. Personne n'avait rien entendu jusqu'à ce que ce soit fini. Elle a affirmé qu'elle comprenait désormais qu'après chaque bataille, il y avait le conquérant et le conquis, le vainqueur et la victime, et qu'elle en était venue à accepter la vérité, à savoir qu'elle avait été totalement, irrévocablement vaincue.